l'écoute de Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Mercredi 27 novembre, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus, c'est la session soirée de l'info sur RFI. On est ravis de vous accueillir, asseyez-vous confortablement. Voici le programme. Dans 10 minutes, le décryptage. Vous poserez cette question, Marion Kazanov, peut-on en finir avec le plastique?
Et oui, alors que se poursuivent les discussions en Corée du Sud au sommet de l'ONU sur la pollution. Plastique, discussion très lente où certains pays refusent d'adopter des mesures contraignantes. On verra pourquoi ça bloque et pourquoi certaines propositions comme le recyclage sont de fausses bonnes idées.
À suivre dans 10 minutes, juste après le journal de 18h. Ensuite, ce sera le débat du jour qui ce soir posera cette question. Est-ce que le gouvernement français peut tenir? Un texte capital ébranle l'équipe dirigée par Michel Barnier. C'est le projet de loi finance dont l'examen entre dans sa dernière ligne droite. La gauche promet une motion de censure et tous les regards sont tournés vers le premier parti à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, qui menace de voter cette censure. Quelle marge d'action pour le gouvernement et puis quelle perspective en cas de chute de cette équipe? 18h, temps universel, le grand journal du soir, présenté par Victor Moria, qui sera notamment, évidemment, au Liban. 18h30, temps universel, Afrique Soir, la première édition. Et puis, 19h10, TU, votre session reportage. Action d'Europe sera en Roumanie, à 4 jours des élections générales. Puis, on reparlera de la pollution du plastique dans le grand reportage avec le Plastique Odyssée, bateau laboratoire qui arpente les mers du monde pour tenter de trouver des solutions pour réduire la pollution plastique.
RFI.
Mais pour l'heure, à 17h, bientôt 2 minutes en temps universel, 18h02 à Paris, c'est le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et le Liban et l'armée régulière qui dit commencer à se déployer dans le sud.
L'armée israélienne et les combattants du Hezbollah, eux, doivent évacuer la zone dans les 60 jours. C'est ce que prévoit l'accord de cessez-le-feu. Il est entré en vigueur la nuit dernière. Un accord obtenu après des mois d'efforts diplomatiques des États-Unis et de la France. Pour le Premier ministre libanais, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le pays. Najib Mikati dit espérer désormais aller de l'avant et parvenir à l'élection du chef de l'État, un poste vacant depuis 2 ans en raison de la crise politique. Mais pour le moment, la population est traumatisée et redoute une reprise des bombardements. Malgré tout, des dizaines de milliers de Libanais ont décidé de rentrer chez eux, dans la banlieue sud de Beyrouth, dans la plaine de la Beka et dans le sud du pays. Comme Felicidad, elle est vénézuélienne. Elle a pris la route avec sa famille dès le début officiel du cessez-le-feu. On l'écoute.
Ils nous ont dit qu'à 4 heures, ils allaient arrêter la guerre. Nous avons quitté la maison sans rien. Mon mari a dû louer un camion. Nous sommes montés dans le camion. Nous rentrons à la maison, mais nous sommes à environ 2 heures de route parce que les routes sont bouchées. Il y a trop de véhicules. La plupart des gens montent dans les villages. Je ne sais pas s'il reste encore la moitié de ma maison ou si tout s'est effondré. On ne sait rien, absolument rien. Mais je remercie Dieu. Je suis heureuse. Oui, mais pour le moment, enfin, pas tant que ça, parce que j'ai perdu presque la moitié de la maison, j'ai perdu mon magasin, j'ai tout perdu. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. Les biens matériels peuvent se récupérer.
Felicidad en route pour le sud du Liban, jointe par Manuel Terradios. Côté israélien, les habitants du Nord s'inquiètent. Certains accusent Benjamin Netanyahou de capitulation. Le Premier ministre a pris la parole hier soir pour expliquer le cessez-le-feu. Il a promis de continuer le combat autrement, notamment contre l'Iran, parrain du Hezbollah libanais. Et quelles conséquences aura ce cessez-le-feu sur Gaza? Finalement, le Hezbollah libanais n'a pas attendu la fin de la guerre dans l'enclave palestinienne pour accepter la trêve. Washington a su redoubler d'efforts pour parvenir, là aussi, à un arrêt des bombardements et la libération des otages israéliens. À Strasbourg, les eurodéputés ont approuvé ce midi à une large majorité la nouvelle équipe de la Commission européenne. À sa tête à nouveau, Ursula von der Leyen. Elle s'est dit prête à se mettre au travail aussi vite que possible avec une priorité, retrouver de la compétitivité pour combler le fossé avec les États-Unis et la Chine. La souveraineté européenne en dépend, a plaidé la chef de l'exécutif des 27 à Strasbourg. On l'écoute.
Il y a 5 ans, lorsque j'ai pris la parole ici même pour vous demander votre confiance, j'ai parlé des événements de 1989, de la génération qui a rendu la liberté à l'Europe. Aujourd'hui encore, je débute par cela. Parce que la lutte pour la liberté, c'est ce qui nous unit en tant qu'Européens. C'est la raison d'être de notre Union. C'est l'Europe que j'aime et c'est à cette Europe-là que va se consacrer ma commission. Aujourd'hui, notre génération doit à nouveau lutter pour la liberté et la souveraineté. Et il faudra faire pour cela des choix difficiles. Il faudra investir massivement dans la sécurité et la prospérité et rester fidèle à nos valeurs. Avec les 26 hommes et femmes qui m'entourent, c'est ce que je m'efforcerai de faire chaque jour. Et nous sommes prêts à nous mettre au travail immédiatement.
Des propos d'Ursula von der Leyen recueillis par Daniel Valot au Parlement européen. Le rapport fait près de 900 pages. Il est accablant pour Jair Bolsonaro. Selon la police brésilienne, l'ancien président d'extrême droite a non seulement activement participé à un projet de coup d'État pour se maintenir au pouvoir, mais il a aussi eu connaissance d'un plan d'assassinat de son successeur, Lula. Selon les enquêteurs, le projet a échoué car les principaux commandants de l'armée brésilienne auraient refusé d'y participer. Aux États-Unis, l'équipe qui va entourer Donald Trump à la Maison-Blanche se dessine petit à petit, une équipe très à droite, radicale, prête à mettre en œuvre le programme du président républicain, notamment en matière d'immigration. Le milliardaire avait promis pendant sa campagne la plus vaste opération d'expulsion de migrants illégaux jamais vue dans le pays. Certaines villes et États démocrates qualifiés de sanctuaires ont promis de se mettre en travers du chemin de Donald Trump. Lui réfléchit déjà en retour à les priver de ressources fédérales. Christophe Paget.
À Los Angeles, la semaine dernière, le conseil municipal a adopté un décret interdisant que la ville utilise ses ressources, la police entre autres, pour appliquer une quelconque loi sur l'immigration. Ce qu'elle ne fait déjà pas, mais l'objectif était d'envoyer un message, le même que celui de plusieurs gouverneurs démocrates, « nous ne coopérerons pas ». Réponse de Tom Homan, que Donald Trump va charger de l'expulsion des migrants illégaux, « nous couperons les aides fédérales qu'ils reçoivent ». Ce que le président élu avait déjà essayé de faire lors de son premier mandat. Nous ne sommes pas le moins du monde intimidés par ces menaces qui visent à saper nos valeurs, a rétorqué le maire de Chicago. Même son cloche du côté d'autres villes comme Boston ou Denver, dont le maire s'est dit prêt à aller en prison pour contrer les promesses d'expulsion de Donald Trump. Des actions en justice sont en tout cas probables. Mais pas sûr que New York suive le mouvement. Après que des États républicains aient commencé à y envoyer par bus des migrants, le maire avait attaqué certaines politiques de sa ville, appelant à une plus grande coopération entre la police locale et les autorités fédérales chargées de l'immigration.
En Corée du Sud, à Busan, il ne reste que 4 jours pour parvenir à un accord. Les négociations pour lutter contre la pollution plastique, objet du sommet, patinent. Le chef des pourparlers s'inquiète, il s'impatiente, il demande aux délégations d'accélérer. À Busan, des militants sont aussi présents pour faire entendre leur voix. Parmi eux, une jeune Indonésienne de 17 ans, très charismatique. Elle est devenue l'une des porte-voix des pays en développement. Célio Fioretti l'a rencontrée.
Eshnina Azara Akilani, 17 ans, est venue tout droit d'Indonésie jusqu'à Busan pour alerter sur la situation de son pays et des autres en voie de développement. Son engagement pour l'écologie vient de sa propre expérience depuis l'enfance, comme elle nous le raconte.
Quand j'étais petite, j'étais très proche de la nature et j'aimais bien faire du bateau sur la rivière. La rivière est très polluée. Beaucoup d'usines rejettent leurs eaux usées dans la rivière. Les gens y jettent leurs déchets, leurs couches, leurs sacs plastiques. Ça me brise le cœur.
Dans une lettre rédigée aux délégations invitées à Busan, elle dénonce la pollution dont les pays en développement sont victimes à cause des pays riches.
Beaucoup de déchets plastiques des pays développés sont envoyés dans mon pays pour être recyclés. Mais je peux voir par moi-même que le recyclage dans mon pays est horrible. Le plastique est coupé en petits morceaux, ce qui fait des microplastiques qui polluent évidemment nos rivières. Il est aussi brûlé, ce qui contamine notre air et la santé des enfants en Indonésie. Donc je veux qu'ils arrêtent d'envoyer leurs déchets ici et qu'ils les recyclent chez eux.
Le gouvernement indonésien a annoncé le mois dernier la fin des importations de déchets plastiques en 2025. Célio Fioretti, Busan, RFI.
On reviendra dans un instant sur le sommet de Busan avec Marion Kazanov dans le décryptage. Et puis un mot de football pour refermer ce journal et la suite ce soir des matchs de la 5e journée de la Ligue des Champions. Belgrade sera opposé à Stuttgart, Aston Villa à la Juventus Turin et Liverpool au Real Madrid. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est encore compliqué la tâche en s'inclinant 1-0 sur la pelouse du Bayern Munich. Sa qualification est encore plus incertaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'RFI tout de suite donc, le décryptage.